France Inter.
Bah c'est pour la même chose quoi, bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard.
T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Le bon chasseur, il voit un truc, bon il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Mais
ça faut. Attends, ça c'est les questions à la con.
Non, faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après.
C'est un sketch qui a 30 ans, signé des inconnus. Une caricature de chasseurs qui boivent plus qu'ils ne chassent et qui finissent par se défouler sur trois poules libérées d'une cage dans un jardin. Cette caricature, par nature excessive, beaucoup de Français l'ont en mémoire. Les chasseurs, eux, la connaissent tous, elle leur colle à la peau. La réalité est évidemment plus nuancée. Il y a aujourd'hui 1 million de Français détenteurs d'un permis de chasse valide. C'est 2 fois moins qu'en 1975, mais ils restent plus nombreux que les licenciés de tennis, d'équitation ou de judo. La pratique la plus répandue, c'est la chasse en battue, au sanglier, biche, chevreuil, chevrette ou brocard. C'est aussi celle qui est la plus accidentogène, avec des tirs qui touchent des maisons, des chasseurs, des randonneurs ou des vététistes.
On vous avez épaulé face à nous. On a dit tiens, il y a des chasseurs. J'en ai pris un dans le casque. Ça va pas ?
En 2022-2023, il y a eu 78 accidents de chasse, contre 90 la saison précédente. 6 ont été mortels, les victimes étaient tous chasseurs. Il y a eu aussi 84 incidents, pas de blessures corporelles, mais une mise en danger d'autrui. Là encore, c'est moins que l'année d'avant. Ces chiffres confirment la tendance depuis 20 ans, une baisse de 60% des accidents. Et pourtant, l'image de la chasse a rarement été aussi négative. Plus de la moitié des Français se disent défavorables à cette pratique. La chasse divise, radicalise. Il y a les anti et les pros. Soutenus par les vendeurs d'équipements, par des responsables politiques qui redoutent de perdre des électeurs, la Fédération nationale des chasseurs présente ses adhérents comme les vrais amoureux de la nature, indispensables à la régulation des espèces. Elle caricature aussi les opposants en écolo-bobos urbains déracinés des territoires. En face, les anti-chasses dénoncent, eux, une pratique d'un autre âge, un pseudo-loisir qui pollue les sols de plomb, qui néglige la cause animale, qui menace les autres usagers de la nature. Est-il possible de dépasser ces clivages ? C'est la question que l'équipe d'interception s'est posée, à l'heure où plus de la moitié des chasseurs a plus de 55 ans.
Je sais bien que le risque zéro n'existe nulle part, mais il me paraît légitime aujourd'hui de proposer d'autres outils à ceux qui prendront notre relève demain pour éviter justement la problématique d'un accident. Nous avons besoin d'eux parce que 100 000 jeunes chasseurs, demain notre fédération est vouée tout simplement à une mort lente.
Thibaut Cavaillès est allé sur le terrain à la rencontre de la jeune génération, des jeunes qui aiment la chasse, qui lui trouvent un sens dans une société de consommation déracinée du vivant. La jeune génération peut-elle redorer l'image de la chasse ? C'est un reportage de Thibaut Cavaillès qui nous emmène d'abord dans le Limousin avec à la prise de son Sandrine Malon.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Hey, il ne faut pas être idiot quand même, je referme ma boîte, je laisse filer le pistolet.
Au suivant de ces messieurs.
Qui c'est qui nous manque là ? A dit Patrick.
À la fin de la journée.
Assurance Patrick, s'il te plaît.
Oui, oui.
Qu'on ne soit pas emmerdé.
Voilà.
Ou le moins possible. Donc je vais commencer à remplir le cahier de battue.
Alors, date de la battue, on est le 16/09/2023. Le responsable, c'est moi.
Ah, le chien est arrivé, c'est bon.
Voilà la meilleure, Mathilde. Ouais. Mathilde,
ça, bonjour, mademoiselle.
C'est notre petit cœur. Adi, ma chérie, ça va ?
Oui.
Bon, les gars. Donc ce matin, on est réunis pour chasser, essayer de chasser le sanglier. Donc Saint-Thierrier, ils ne peuvent pas chasser le sanglier. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans le maïs. Il y a des gros soucis. Donc il m'a dit, vous allez chasser là-bas, vous ne vous occupez pas des limites, mais vous chassez ces sangliers. Et moi, je vais aller rencontrer les voisins, parce qu'on passe très très près des maisons, leur expliquer qu'on va chasser dans le maïs. Donc je vais vous répartir les secteurs. Arnaud, toi, t'as pas de secteur, parce que tu vas venir avec moi, on va faire du public relation avec les propriétaires qui habitent là-bas. Willy, tu vas t'occuper du secteur là-bas, le maïs. Tu vas prendre avec toi les deux panneaux que j'ai posés sur la table. Et tu les mets sur la grande route, comme d'habitude. Alain, tu vas aller à ton secteur habituel, à l'étang. Jojo, avec Seb, vous allez me faire le long de la route de Chervet, le long des taillis là-bas. Et vous partez du Sapin de la Liberté, vous remontez jusqu'à Châtefaine. Et on va tirer, donc sanglier au cas où, mais on va tirer brocart. On va tirer, se limiter à deux brocarts. On chasse à balle, on est bien d'accord. Les postes, on va chasser à balle, donc il va falloir être hyper vigilant. Il m'en faut sur la route au moins 4.
Oui, bien sûr.
Voilà. Si vous ne pouvez pas tirer, les gars, si vous pensez que c'est dangereux, vous ne tirez pas.
On y va. Allez, hop.
Allez.
Les panneaux. Parce que. On n'est pas là pour enfiler des perles, les gars. Allez, hop.
Donc là, on est sur la terrasse d'une petite cabane de chasseurs. Cabane en métal, une sorte de container avec une terrasse en bois devant. On est dans une forêt et ici, on est au Pouilloulou du Levant. C'est près d'un endroit appelé la Petite Vessière qui se trouve sur la commune de Saint-Thierry-à-la-Perche. C'est en Haute-Vienne, au sud de Limoges. Et c'est Francis Roux qui vient de donner les consignes de la battue qu'on va suivre. Francis, c'est le président de l'association Le Chevreuil de la Joncha et c'est aussi le chef de battue. Une dizaine de chasseurs et parmi eux, il y a Dionys, 15 ans, tu es ce qu'on appelle un chasseur accompagné, ça veut dire quoi ?
C'est avec des parents, c'est à partir de 15 ans, et après à partir de 16 ans on peut passer le permis de chasse.
Donc toi tu n'as pas encore l'âge de passer le permis de chasse, mais tu as le droit d'avoir une arme sur toi.
Ouais. Et de tirer. C'est avec un parrain à moi, sinon je n'ai pas.
Là aujourd'hui, qui sera ton parrain ?
Mon père, Denis.
Denis donc. Tu as déjà chassé ?
Oui, la semaine dernière, à l'ouverture.
Comment ça s'est passé ?
Un peu stressant au début, quand on entendait les chiens arriver sur nous, mais après ça a été.
Tu as tiré ?
Non, rien n'est passé devant moi.
Dionys, tu peux mettre s'il te plaît ? Ouais, mets-le dans le casque. Je vais prendre un gilet, au gilet fluo, c'est bon ? Tout le monde en entend ? Eh, 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 Navarro !
Francis, oui. Francis Roux.
C'est ça.
Vous êtes le président de l'association Le Chevreuil de la Joncha.
Oui.
Et vous êtes aussi aujourd'hui le chef de battue, c'est ça ?
C'est exactement ça.
Chef de battue, ça veut dire une responsabilité.
C'est une grosse responsabilité.
S'il y a un accident, quelque chose, on peut vous
embêter.
C'est pour votre pomme. Là, aujourd'hui, on va aller peut-être chasser le sanglier ou le chevreuil, on ne sait pas trop encore.
Si on a des sangliers, on chassera le sanglier. Si on a du chevreuil, on chassera le chevreuil.
Avec une équipe de 2, 4, 6, une dizaine de chasseurs,
voilà.
Dont Dionys, qui a 15 ans.
C'est ça.
Et à côté de nous, là, il y a Mathilde, qui a à peine 10 ans. Bon, Mathilde n'aura pas d'armes.
Mathilde n'aura pas d'armes, elle est accompagnante.
Mais vous, en tant que chef de battue, un enfant de 15 ans, un enfant de 10 ans dans votre équipe, ça n'est pas un stress supplémentaire ?
Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai des gens qui sont responsables au poste, qui sont sérieux, en qui j'ai confiance.
Parce qu'un enfant de 10 ans ne réagit pas forcément comme un adulte face à peut-être un sanglier
qui... Il reste jamais tout seul, de toutes les façons, que ce soit Mathilde ou que ce soit Dionys, ils sont jamais seuls, ils sont tout le temps accompagnés.
Mathilde, c'est j'imagine ta première journée de chasse de l'année, de la saison. Mais auparavant, tu suivais déjà ton papa sur la chasse ?
Je viens depuis que j'ai toute petite et j'adore ça.
Et qu'est-ce qui te plaît ?
À la chasse ? Ben, les chiens, le gibier et l'action surtout. Quand les chiens boivent derrière le gibier, quoi.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vois ça ? Ça t'est arrivé, donc j'imagine de le voir. Tu as déjà vu un sanglier se faire tuer ?
Ben moi j'ai dit j'espère qu'il est mort et qu'on ne l'a pas raté et qu'il est gros.
T'as bientôt 10 ans. Tu as des copines et des copains autour de toi qui ne font pas ça du tout.
Ils n'aiment pas la chasse parce qu'ils ne veulent pas qu'on tue les animaux.
Donc là c'était Mathilde qui a bientôt 10 ans, son papa.
Oui. Jonathan.
Ça fait un petit moment elle dit qu'elle vous accompagne.
J'ai commencé à l'amener en chasse à cours à l'âge de 3 ans. J'ai une passion de la photo aussi, animalière. Donc elle me suit quasiment à chaque sortie. En fait, j'essaye de lui montrer la nature complète pour qu'elle voie exactement tout ce qui se passe de A à Z, quoi. Là, en ce moment, c'est le brame. Donc là, le moment de la reproduction, pourquoi il brame, pourquoi il y a des combats, pourquoi les animaux font comme ça. J'essaye de lui apprendre et qu'elle connaisse.
Quand vous m'avez dit qu'elle vous accompagne depuis qu'elle a 3 ans, j'ai un peu ouvert grand les yeux. Vous comprenez
oui,
que je puisse être surpris ?
À chasse à cours, il n'y a pas d'armes. C'est pour ça que je l'amenais à l'âge de 3 ans, parce qu'il n'y avait pas d'armes. Sinon, je ne l'aurais pas amené. C'est trop jeune, il y a déjà le bruit de l'arme, la vue du sang et tout. Il faut y aller progressivement. Sur une chasse à cour, il y a uniquement les chiens qui chassent. Il y a des chevaux et c'est les chiens qui chassent pour eux. Donc elle venait pour voir les animaux, l'action du chien et tout le déroulement de la journée. Voilà.
Francis,
oui.
Vous m'avez prévenu au téléphone, pas de casse-croûte, pas d'alcool.
C'est ça. Chez nous, pas de casse-croûte, pas d'alcool, c'est un choix.
Ni pendant, ni après la chasse.
Ni pendant, ni après la chasse. On a des armes dans les mains, quand on repart avec de l'alcool, est-ce que c'est bien? Je ne suis pas convaincu. Donc non, chez nous, on a fait le choix de ne pas boire d'alcool du tout.
Vous avez avec vous des jeunes?
Oui, on a la chance d'avoir des jeunes qui, j'espère, transmettront à leur tour et qui vont surtout se battre pour que cette passion perdure, parce qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup attaqués, principalement par des gens qui ne connaissent pas du tout notre passion, que j'invite d'ailleurs à venir avec nous. Je suis ouvert à tout le monde. Nous, on n'est pas contre les promeneurs, au contraire. On n'est pas contre les vététistes, au contraire. Si tout le monde respecte tout le monde, ça se passe super bien.
En quoi les jeunes et les futurs chasseurs peuvent aider à améliorer cette image?
Nous, ma génération, quand j'allais à l'école et tout ça, on nous parlait beaucoup moins d'écologie, beaucoup moins de... Eux, ils sont tombés dans la marmite tout petits, quoi. Donc, c'est à eux de nous pousser vers le haut, quoi. Moi, je compte beaucoup sur eux. Et j'ai la chance d'en avoir dans mon équipe des jeunes et des tout jeunes. Et j'espère leur passer le flambeau.
Les chiffres de la chasse sont en baisse.
Oui, c'est vrai, les chiffres de la chasse sont en baisse parce que on avait beaucoup de vieux chasseurs. On a beaucoup de vieux chasseurs et qui ont beaucoup de mal à s'adapter. Et les angles de sécurité, mettre les petits jalons pour matérialiser, c'est très très compliqué. J'ai mon père, par exemple, qui a 77 ans, qui chassait jusqu'à il y a 2 ans. Ici, j'ai imposé qu'on respecte nos angles de sécurité, tout ça. Ben, mon père a arrêté de chasser. Voilà. Parce qu'ils ne comprennent pas que, dans le temps, ils partaient avec leur chien, leur fusil, puis ils allaient chasser, point.
Les jets qu'on entend là, ils préviennent du danger. En fait, c'est dès qu'il y a quelque chose qui bouge sous bois, un chevreuil, un renard, un cervidé ou un sanglier, on les entend crier comme ça. Et beaucoup d'animaux se fient au cri du jet. Là, on peut deviner un pied de sanglier. Alors, est-ce qu'il est frais? Je pense pas. Le chien n'a pas l'air de le marquer. Les onglons avant, on les voit bien. Donc là, on dit qu'il est rentrant. Il va dans ce sens-là.
Donc il serait rentrant vers le bois, là.
Voilà, il serait rentrant vers le bois, là.
Mais moi, je pense que c'est un petit sanglier, vu la taille des...
Un sanglier, vous voyez, qui fait 40-45 kilos, à peu près.
Jonathan, si aujourd'hui, il faut prélever parce qu'il y a trop de sangliers, c'est aussi parce qu'à un moment, on a réintroduit le cochonglier, c'est-à-dire le sanglier qui se reproduit bien. Et avec le maïs, en plus, il mange bien, donc il se reproduit beaucoup plus qu'avant.
C'est peut-être pas faux, surtout à certains endroits où il a été sûrement réintroduit illégalement. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le monde agricole a évolué, donc beaucoup plus de nourriture pour le sanglier. Donc qui dit nourriture abondante, les laits reviennent en chaleur plus rapidement, et il n'y a plus de froid l'hiver. Une lait, il y a, on va dire, 20 ans de ça, quand elle faisait 4-5 marcassins, avec les froids de l'hiver, sur les 4-5, ils s'en sauvaient 3-2. Et sauf que maintenant, avec la nourriture, elles arrivent à en faire 6, 7, et ils arrivent à tous se sauver. et il faut prélever. En fait, on est arrivé dans une politique où on a mis le monde agricole dos au mur en disant il faut produire. Donc il faut trouver l'aliment qui fait engraisser les vaches rapidement. Et du coup, on ne prend plus le temps d'engraisser les vaches comme dans le temps. Maintenant, ce qu'on recherche, c'est du rendement. Donc l'agriculteur, pour avoir du rendement, il est obligé de faire du maïs. Beaucoup de cultures de maïs, des céréales. Le sanglier, qu'est-ce qu'il préfère ? Le maïs. Donc ça fait du dégât. Mais si on n'avait pas mis les agriculteurs dos au mur en disant « il faut produire », peut-être qu'ils auraient fait moins de maïs, mais laisser nourrir les vaches comme ils faisaient dans le temps au sec, hein, tout ce qui est foin et farine, et peut-être qu'il y aurait moins de sangliers et moins de gibier.
Vous êtes conscient de l'image négative de la chasse auprès des Français, une grande majorité qui dit « ça va pas, il y a un problème de,
de la chasse ». Parce qu'en fait, ce que les gens retiennent beaucoup, c'est les mauvaises images qui ont heurté. Mais on n'est pas tous pareils.
Votre fille, bientôt 10 ans, va être exposée à ces critiques.
Mais je l'ai déjà prévenu. En fait, j'ai dit, tu verras, le monde de la chasse ne sera pas aimé par tes copains et tes copines. Mais j'ai dit ça, il faut se dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde.
Mathilde, tu es consciente que plus tu vas grandir, plus tu risques d'avoir des gens qui critiquent le fait que tu aimes la chasse et tout ça.
Oui, je le sais. Mais j'arrêterai pas la chasse. Regardez un chevreuil. Petit fond.
Je vais mettre un bras à peu près derrière lui, à un mètre derrière lui, toujours. En chasse accompagnée, c'est ce qu'il préconise, un mètre à peu près derrière le gars.
Je suis avec Denis Doge. Denis, vous êtes chasseur. Je dirais que vous avez une cinquantaine d'années.
57.
Un béret sur la tête, un gilet orange fluo, une corne, alors c'est un corps, c'est une corne.
Une corne.
Une corne. Mmh. Et vous êtes le papa de Dionys.
Voilà.
Là, on est dans un champ, face à un champ de maïs.
Oui.
Où vont être lâchés les chiens.
Oui.
Pour rabattre le gibier, donc du chevreuil ce matin.
Chevreuil ou sanglier.
Derrière nous, il y a cette route.
Oui.
Il y a du passage, on est à 20 mètres de la route là.
Oui, à peine. Ouais, 20 mètres, ouais.
Dionys, est-ce qu'on est dans les règles là par rapport à la distance, à la route
Oui, parce que je tire devant et pas derrière, parce que derrière la route. Et je peux tirer devant vu que ça risque rien, vu que c'est un tir fichant.
Tir fichant, c'est-à-dire ?
Tir vers le bas, vu qu'on est sur une butte.
Et vous, Denis, autant Dionys, votre fils, a une arme, vous non ?
Moi non, je n'ai pas droit à l'arme tant que mon fils est en chasse accompagnée.
Votre boulot là, c'est de s'occuper de lui en fait ?
Voilà, de le superviser quoi. De l'accompagner et le former en même temps.
Ouais. C'est-à-dire que vous lui donnez un peu des conseils, des consignes régulièrement. Ok.
De faire attention où il va tirer, parce que là on va tirer sur un bois. Alors évitez de tirer sur des arbres surtout, pour éviter le ricochet quoi. Ouais. Parce qu'on tire à balle, on est à balle là, on n'est pas à plomb. Donc c'est pas plus mal d'avoir quelqu'un quand même avec la personne qui commence à chasser quoi. Nous à l'époque, quand on était jeunes, ça n'existait pas. On ne pouvait pas chasser directement voilà, sans personne derrière nous quoi.
Oui, mais à partir de 16 ans.
On attaquait plus tôt, des fois. Eh oui. Il y avait moins de restrictions que maintenant, quoi, surtout.
Là, Dionys, on entend les chiens, donc on peut imaginer qu'un chevreuil arrive assez vite. Et ton arme est toujours, comme on dit, cassée.
Oui.
Je m'explique.
Bah, tant que j'ai pas visionné l'animal, parce que ça peut très bien être une chèvre, la femelle chevreuil, qui a pas de bois et qu'on peut pas tirer vu que ce matin aux consignes il a dit que c'était que brocard. Du coup j'attends d'identifier l'animal et je tirerai après.
Brocard c'est le mâle.
Oui.
C'est-à-dire cassez-vous. Tu peux nous expliquer ce que ça signifie?
Entre la crosse et le canon, c'est ouvert. On est plus en sécurité comme ça. Si on appuie sur la gâchette, ça percutera pas les cartouches et il y aura moins de risques.
Tu n'aurais pas la tentation d'avoir toujours ton fusil armé pour être prêt ?
Non. Tant que les chiens ne mènent pas, on ne tirera pas de toute façon, parce que si ça se dérobe, il n'y aura pas de récompense pour les chiens.
On vient de voir un renard qui a fui et qui nous a fui.
Aperçu renard. On a aperçu un renard.
Dionys, pourquoi on n'a pas chassé le renard là ? Du terrain a le droit d'imposer l'espèce qu'on peut tirer ou pas.
Ah oui, 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 il a tout à fait le droit.
Mathilde, tu l'as vu le renard ?
Oui, je l'ai vu. Il était très joli.
Ouais. Il était pas très loin là de nous. Hein. C'est ça qui te plaît aussi dans la chasse ?
Oui, c'est de voir les animaux. Oui, les tuer, c'est peut-être pas qu'il y a des gens qui aiment pas. Mais j'aime bien aussi quand on voit un renard, un animal vivant, puis après quand on tue.
Après, l'enfant, il voit ça, il voit ça. Après, c'est pas la loi de la jungle, mais presque, quoi.
Bah, c'est la passion de la chasse. Enfin, c'est la loi de la chasse.
Arrête.
La survie de la chasse passe-t-elle par des règles plus strictes ? La Belgique, les Pays-Bas ou le Luxembourg n'autorisent plus les Français à venir chasser sur leurs terres. L'apprentissage théorique du permis français serait trop léger selon eux. L'Allemagne aussi ne reconnaît pas notre permis de chasse, pas assez rigoureux sur la précision du tir. En Allemagne, il y a moins de chasseurs, mais la pratique est bien vue par l'opinion publique. Thibaut Cavaillès nous emmène maintenant dans un centre de tir près de la frontière, en Alsace, où la Fédération des chasseurs s'inspire du modèle allemand pour améliorer son image et séduire les plus jeunes.
Interception sur France Inter.
Voilà, notre poste est ici. La battue se passe ici,
oui.
Dans ce sens-là. Je vous donne deux cartouches. Merci. À vous de jouer. Vous venez, vous remettez ventre au bois. Maintenant, je vous écoute.
J'entends le signal de début de battue.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Je vais vérifier mes canons.
Ok.
J'entends le signal de fin de battue. Je décharge. Aïe.
Vérifiez vos canons. Ça, c'est éliminatoire, hein, méfiez-vous. Hein. C'est fluide, c'est bien. Simplement, il faut, au niveau des angles des 30 degrés, il faut vraiment que vous alliez à un angle de 90 degrés entre les 5 pas et les 3 pas.
Oui.
Parce que sinon, vous allez ouvrir ou fermer votre angle de 30 degrés. Et au niveau de la sécurité, c'est pas ce qu'on recherche.
Oui.
On veut un angle de 30 degrés qui soit cohérent par rapport au risque, au danger qu'il peut y avoir, soit des constructions, soit des personnes, soit les voisins de chasse. Voilà. Merci. On continue comme ça. Ça devrait être moi l'examen.
Merci.
Là, nous sommes dans la forêt d'Ehrenwald, la forêt des messieurs, une forêt privée qui appartient à la Fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin, dans un centre de formation en plein air, donc, formation à la chasse. On peut entendre l'autoroute à 35, pas très loin, le générateur qui permet d'activer les sangliers courants, c'est-à-dire les simulateurs de sangliers qui passent pour former donc les apprentis chasseurs à tirer. Et on vient de suivre Lorraine, 25 ans.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Assistante commerciale.
Pourquoi vous êtes là, Lorraine ?
Parce que j'ai depuis peu la passion de la chasse. Chez nous, ça s'est transmis depuis mon grand-père à mon père et ensuite à mon frère et à moi. Et je pensais qu'il était temps de faire mon permis pour pouvoir partir à la chasse avec ma famille.
Donc Lorraine, tatouage, lunettes cerclées dorées.
Oui.
Est-ce que vous êtes consciente, Lorraine, qu'en France, l'image des chasseurs n'est pas forcément positive ?
Oui, oui. Je comprends que l'image soit ternie avec les années par rapport à... peut-être aux plus anciens, ou qui avaient moins de sécurité et peut-être moins de communication aussi par rapport à ce sujet-là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en tant que jeune chasseur, par rapport aux formations ou même à certains réseaux sociaux, je trouve que la communication est quand même meilleure et tout l'aspect sécurité se développe vraiment beaucoup.
Vous allez bientôt passer le permis de chasse ?
Dans 2 semaines.
Vous êtes prête ?
Je pense l'être, ça fait 1 an et demi que je m'entraîne.
On est juste à côté de l'Allemagne. Pour passer son permis de chasse, il faut payer 2500 euros. Beaucoup plus cher qu'ici, ça doit être 200 ici à peu près en France.
Dans ces eaux-là, oui. Ouais.
2500 euros et surtout le jour du permis, il faut avoir un certain nombre de cibles. C'est pas le cas en France.
Non, parce que chez nous, c'est plus axé sur la sécurité. Toucher sa cible n'est pas forcément nécessaire, mais tous les gestes de sécurité, ils mettent vraiment un point d'honneur dessus pour que tout se passe bien et justement qu'on limite les accidents le plus possible.
En Allemagne, donc, il mise sur la sécurité, mais aussi sur la précision.
Oui.
Est-ce que ce ne serait pas une nécessité que d'apprendre aussi à être précis ? Là, je vous vois qui
c'est. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Ce serait un plus à mettre dans la formation.
Regarde ça. Là et là.
Bah si. Et vous avez épaulé face à nous. On a dit tiens, il y a des chasseurs.
Dans le casque. J'en ai pris un dans le casque.
Je peux vous dire. Hein.
Non mais arrêtez en plus de nier parce que là c'est vraiment confortable. Alors rendez votre fusil, rendez votre permis, vous êtes plus en état de chasser.
Donc là on est toujours à la Fédération des chasseurs du Bas-Rhin, 67, dans un ciné-tir, un espace dédié au perfectionnement du tir. Avec trois jeunes gens qui vont tirer sur une sorte d'écran. C'est le premier ciné-tir qui a été installé en France.
Tout à fait. En fin de compte, ça va permettre aux jeunes de pouvoir se perfectionner, d'assumer la sécurité et de tuer proprement la bête sans la blesser. L'objectif, c'est de faire des tirs propres qui tuent instantanément et pas de blessures. Aucun chasseur n'aime que ce soit blessé. On aime tuer proprement. Alors moi, je suis Jean-Paul Debès. On est à trois opérateurs qui fonctionne ici pour faire tourner à tour de rôle le ciné-tir. Actuellement, surtout vers les battues, les gens s'approprient de plus en plus le ciné-tir pour venir et pour essayer de reprendre l'arme en main et de faire des tirs corrects. On va aller à l'intérieur du centre névralgique. Là où on passe les films, c'est par là que ça se passe. Donc, je vais mettre en route tout le système. Voilà, donc c'est un système informatique. Il y a des films en 3D qui sont projetés. Et lorsque le candidat est prêt, il me fait un signe, et à ce moment-là, je lance le film, il peut tirer. Et il y a un point rouge qui se met à l'endroit précis où il a tiré pour essayer de corriger ensuite son tir. Donc il y a l'efficacité qui est recherchée et aussi la sécurité. Parce qu'on met beaucoup l'accent sur la sécurité, les angles de 30 degrés, et ne pas tirer est aussi une action de chasse si on n'est pas sûr. Disons s'il y a trop de broussailles, trop de branchages, on demande à l'élève de ne pas tirer. D'être sûr quand il tire que l'animal va tomber. Ok, tu te prépares, tu mets 3 balles s'il te plaît, et tu peux commencer ton tir. Nous délivrons donc des tickets également, comme quoi ils étaient présents et ils ont tiré. C'est une obligation en Allemagne. Ils ne peuvent pas aller en battue s'ils ne sont pas passés à un centre de tir. Et je pense que prochainement, en Alsace-Bas-Rhin, ça va être pareil. On demande que les gens ils prennent l'arme en main avant les battues. Disons pour les autres usagers, les promeneurs, c'est plus sécurisant quand on sait que la personne, elle a refait un passage. Ok, Arthur, quand tu veux. C'est parti. Feu. Alors c'est Arthur, c'est un jeune nouveau permis. C'est sa première année de chasse. Et donc c'est bien, il vient régulièrement pour s'entraîner. Et pour se perfectionner, donc c'est très bien que les jeunes ils s'approprient ce ciné-tir et qu'ils se perfectionnent. C'est par respect pour l'animal et aussi pour les autres utilisateurs. Allez, quelque chose de plus difficile. Je te passe une vidéo et tu me regardes l'environnement, s'il te plaît. Ok ? Donc tu t'abstiens de tirer, c'est parfait, parce que il y a des promeneurs qui arrivent derrière. C'est très bien. Bravo. Allez, on se déplace dans la salle de tir. Okay. Je vous accompagne. Donc, on se présente très bien. Voilà. Donc voilà le candidat. On est à l'intérieur. Donc là, on surveille le candidat. Regardez l'arme, comme il la tient bien. Il se penche en avant sur son pied d'appui. Il prend son temps pour viser posément.
Donc là, on est dans la salle du ciné-tir. Et il y a Victor, jeune chasseur, et à la main, une carabine laser.
Déjà, on identifie les animaux qui sont en train de passer. Donc on va essayer d'identifier quel animal on peut tirer plus que d'autres.
Là, par exemple, donc l'image s'arrête, on voit un point rouge sur l'épaule avant droite du sanglier, c'est un bon tir?
Ça pourrait être mieux, une balle dans un organe vital, histoire qu'il meure rapidement et qu'il ne souffre pas.
Pas trop satisfait la Victoire.
Ouais, non, ce serait mieux de viser un peu mieux là. Faudrait que j'adapte mon tir.
Là, on retrouve les tireurs qui ont tiré dans le ciné-tir. Je commence avec vous, Arthur, bientôt 20 ans.
Oui, bientôt 20 ans d'ici un mois.
Donc j'ai tiré avec du 30-06, donc qui est un calibre assez standard, en préparation des battues qui commencent. Voilà, on apprend à manier l'arme durant le permis de chasser et puis par les différentes sorties qu'on peut effectuer par la suite.
Alors en plus d'Arthur, donc il y a Victor,
19 ans.
Ça permet de s'entraîner et le jour où on tire sur un animal réel, de pas le blesser, de pas qu'il souffre et qu'il soit mort instantanément. C'est l'objectif premier de la chasse, c'est pas de blesser un animal qui va prendre 15 minutes à mourir et à souffrir.
Alors vous parlez du gibier, mais pour l'instant vous m'avez pas parlé des randonneurs éventuels.
Alors il y a des gens, des fois ça fait vraiment plaisir de les croiser, puisque voilà, ils vont discuter même l'instant de 2 minutes, mais ça fait toujours plaisir, voilà, ils vont nous adresser un mot gentil ou vice versa, c'est agréable. Et des fois, voilà, vous avez aussi des personnes qui nous dévisagent ou qui nous traitent d'assassins, alors que nous, on est juste là pour réguler finalement, faire de notre mieux sans les déranger.
Bon, mais merci les gars, on va aller voir le patron, président des jeunes.
Merci à vous.
Merci à vous.
Il y a Philippe Kraut qui nous a rejoint, c'est le président des jeunes chasseurs du Bas-Rhin. Philippe, vous êtes fier de Victor et Arthur ?
Évidemment, ce sont les chasseurs de demain à qui on essaie d'enseigner un maximum de choses à l'issue de l'obtention du permis de chasser, où on leur donne la base de la manipulation, de la sécurité, de la biodiversité, on leur enseigne un petit peu tout ce qui va faire leur prochaine passion.
Vous êtes conscient que ça n'est pas dans tous les départements pareils, hein, Ciné-Tir, il n'y en a pas beaucoup en France ? Que tous les jeunes chasseurs ne peuvent pas bénéficier de ces conditions.
C'est clair, il n'y en a pas beaucoup effectivement en France, c'est un super outil. C'est un choix qu'on a fait nous au niveau du département. Hein. Nous on a choisi de leur donner l'opportunité de se former correctement à l'issue de l'obtention de leur permis. Ça coule de source, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement, surtout quand on utilise des armes létales, quoi, clairement. Quoi.
Frédéric Aubry, président de la fédération, donc monsieur Aubry, vous avez fait ce choix de former de façon un peu plus rigoureuse.
Parce que nous désirons avant tout diminuer le taux d'accident qui pourrait intervenir lors de la pratique de la chasse. Et tout simplement pour nous dédouaner aussi par rapport à toutes les critiques qui aujourd'hui nous sont faites concernant la pratique de notre activité. Il faut arriver... Alors je sais bien que le risque zéro n'existe nulle part, mais il faut faire un maximum pour éviter justement la problématique d'un accident. Il me paraît légitime aujourd'hui de proposer d'autres outils à ceux qui prendront notre relève demain. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux parce que sans mes jeunes chasseurs, demain notre fédération est vouée tout simplement à une mort lente. Et le recrutement de ces jeunes chasseurs constitue, un emblème pour notre fédération à l'heure actuelle. Cette forêt leur est dédiée. Les chasses qui sont organisées dans cette forêt, c'est pour nos jeunes chasseurs. On veut leur donner l'occasion de sortir, l'occasion de pouvoir chasser sur un territoire qui est un territoire école.
Sans ces jeunes chasseurs, il n'y aura plus de chasse ?
Non, sans les jeunes chasseurs aujourd'hui, même s'ils ont parfois des visions différentes de la chasse que nous avions, ils peuvent nous amener des idées nouvelles, ils peuvent nous amener de nouvelles problématiques, de nouvelles que nous devrons assumer, tout simplement parce que nous sommes là pour cela. Bien sûr, il y aura toujours des anti-chasses, et je ne leur conteste pas du tout leur position, hein. Mais aujourd'hui, je serai plutôt dans le mode explicatif, dans le mode ouverture, dans le mode discussion, dans le mode tout simplement convivialité sur un espace que nous traitons en commun avec des tas d'amoureux de la nature, avec des marcheurs, avec des cyclistes, avec des promeneurs, avec des randonneurs, et il n'est pas question de les exclure.
On oppose souvent les usagers de la forêt, de la campagne. D'un côté, les chasseurs, convaincus qu'ils sont les gardiens de ces lieux, qu'ils arpentent depuis des générations, par tous les temps, toutes les saisons. De l'autre, les promeneurs, les cyclistes, les ramasseurs de champignons, les écologistes, convaincus qu'ils sont les vrais défenseurs de cette nature, d'une biodiversité menacée, d'un milieu sauvage au service des hommes qui doivent se ressourcer. Avec Thibaut Cavaillès, direction maintenant Le Perche, au domaine du Bois Landry, on y trouve des cabanes pour les touristes, des poneys pour les enfants, mais aussi, pour réguler la faune, de jeunes chasseurs qui défendent un renouveau de la pratique.
France Inter. Interception.
Donc Alexandre Mercier, 26 ans aujourd'hui, président de l'Association nationale des jeunes et nouveaux chasseurs de France. Et en l'occurrence ici, chasseur au domaine du Bois Landry. C'est ici qu'on va essayer de faire notre partie de chasse ce matin.
C'est quel genre de
fatigué là.
Là c'est la chasse à l'approche. Je suis tout seul. Aujourd'hui, on va chasser principalement le sanglier ou le grand cervidé, donc faon, biche ou cerf. On marche un petit peu plus doucement parce que le but de l'approche, c'est de ne jamais se faire repérer par les animaux et donc d'arriver avec un pas qui est très silencieux, très lent, que les animaux ne nous voient pas et qu'on puisse justement, d'où son nom, les approcher au plus proche pour pouvoir effectuer un tir dans de très bonnes conditions avec un tir qui ne met en danger personne, qui est fatal pour l'animal, voilà, et dans des distances raisonnables, etc. C'est pour ça qu'on essaie de faire le moins de bruit possible dans ces chasses à l'approche quand on est en mouvement.
Alexandre, vous faites quoi dans la vie ?
Je suis médecin.
Qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, en tant que jeune chasseur ?
Ce que j'essaie d'apporter, c'est peut-être une vision différente de la chasse, que aussi, ça ne s'arrête pas qu'à la chasse, c'est aussi la nature, la forêt, les espèces. Cette vision d'un chasseur qui a envie d'apprendre, qui a envie de s'améliorer, et d'une chasse novatrice, d'une chasse sécurisante, surtout d'une chasse durable. Quand on a encore aujourd'hui des chasses où l'agrainage abusif et non dissuasif en grande, grande quantité pour nourrir les animaux. Ces pratiques-là, malheureusement pour moi, aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être et ne sont pas justifiables.
Et quand vous tenez ces propos, vous n'avez pas peur de vous mettre une certaine partie des chasseurs à dos ?
Peut-être, très certainement, mais après, il y a tellement de possibilités de chasse et on peut tellement s'épanouir autrement que par ces pratiques-là, qu'il faut amener ces chasseurs-là vers une chasse plus raisonnée. Du petit gibier sauvage, il y en a encore plein. Il y a une possibilité assez énorme. Et certes, je vais peut-être me mettre des gens à dos, certaines personnes, mais je pense que les chasseurs de demain qui veulent que la chasse évolue penseront comme moi. La chasse doit être mieux vue par l'aspect qu'on prend en compte la biodiversité, qu'on prend en compte le milieu dans lequel on chasse, par le respect qu'on doit apporter à l'animal. Et ça, c'est un autre aspect aussi qui est très important. Il faut avancer dans cette direction.
Pour défendre la chasse, la Fédération nationale des chasseurs s'appuie sur les élus, les décideurs, les industriels. Elle en a les moyens et les relais. Mais grâce aux réseaux sociaux, il est possible aussi de défendre une autre chasse. Pour terminer ce reportage, Sébastien Sabiron est allé près de Rennes, en Bretagne, à la rencontre de Fiona Hopkins, chasseuse et influenceuse. Pour elle, chasser, c'est respecter l'animal, mais aussi bien se nourrir.
Bonjour Fiona, enchantée. Bienvenue à la maison. J'ai 28 ans. Je chasse, je suis aussi très présente sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant. On me considère du coup influenceuse parce que je travaille aussi avec des marques. Sur Instagram, je suis à 32 000 abonnés et sur Facebook, 22-23 000 je crois. Et sur TikTok, un peu plus de 10 000. Ouais.
La recette la plus facile et la meilleure pour manger du gibier, vous mettez du beurre, mais vraiment beaucoup de beurre. Au-dessus, en dessous. Plus c'est gras, mieux c'est. Un petit peu d'huile d'olive, parce que c'est trop bon. Maintenant, vous coupez votre viande. Et là, vous allez me dire, mais Fiona, c'est rosé, c'est pas cuit. Patate. Maintenant, vous remettez ça au four, éteint, pendant 10 minutes. Et là, c'est fini. Et il n'y a plus qu'à se régaler. Et ensuite, vous pouvez sortir un bon petit pif, parce que juste après, bah, vous n'allez pas chasser. Et voilà.
Donc là, on est chez moi, à la maison, à une quarantaine de kilomètres donc, de Rennes. Pleine campagne, comme on aime. On voit les belles pierres apparentes qui représentent bien la Bretagne. Et après, il y a quelques touches quand même de chasse, parce que bah, là, vous pouvez voir, il y a quand même un brocart qui est naturalisé sur le mur.
Et un sanglier dans le jardin.
Et un sanglier dans le jardin, qui est une forme 3D pour le tir à l'arc. Exactement, bien vu. Donc là, du coup, je vais sortir un pigeon ramier, donc une palombe qui est appelée comme ça dans le sud, pour qu'on puisse cuisiner.
Ces animaux-là, ils viennent d'où ?
Alors là, du coup, c'est des pigeons ramiers qui ont été chassés en Sologne, donc le dimanche dernier, pour l'ouverture de la chasse. Donc je vais vous proposer donc, à faire avec moi donc, une recette de samoussa à base de pigeons ramiers. Alors en fait, moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je suis des recettes qui existent déjà. Et je les transforme uniquement avec du gibier. Et après, des fois, j'ajoute un peu ma petite touche parce que j'aime beaucoup cuisiner. Mon conjoint cuisine beaucoup dans sa famille aussi. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Et surtout, la transformation de venaison qui est très importante pour nous.
Ici, il y a un trépied, votre smartphone.
Toutes les recettes que je fais à partir de gibier, je vais utiliser mon téléphone et en fait faire soit des vidéos, soit des photos pour après présenter la recette sur les réseaux sociaux, donner envie, donner de nouvelles recettes, nouvelles idées pour pouvoir transformer en fait la venaison de gibier à tout le monde. Donc là du coup je vais les mettre 2 minutes de chaque côté dans l'huile. Alors par contre, il y a un détail que j'ai oublié, je la prends vraiment en vidéo.
Ça, c'est une recette un peu exotique avec du gibier typiquement français.
C'est une cuisine oui, assez exotique parce que voilà, les samoussas, c'est pas ce qu'on cuisine tous les jours, en tout cas en France, mais avec un gibier de chez nous. Après, tout ce qui est recette aussi purement du terroir, je fais de la blanquette de chevreuil qui est excellente. Le bourguignon, la carbonade flamande aussi. En fait, il y a beaucoup de recettes très françaises et qu'on peut faire avec du gibier. Le jour, j'ai fait des cordons bleus de sanglier et c'était excellent. On peut vraiment tout faire avec la viande de gibier. Donc, il faut vraiment prendre la venaison comme elle est et l'utiliser dans des recettes qu'on aime beaucoup et ça matche vraiment très bien. Et c'est une viande qui est vraiment excellente. Voilà, c'est du fusil à l'assiette, comme on dit. Je trouve ça normal, ça fait partie, c'est nous qui avons chassé, c'est nous qui avons pris la décision de tuer l'animal, donc c'est la moindre des choses derrière de s'en occuper, de le dépecer ou le plumer, et après de pouvoir le cuisiner. Quoi. La chasse, ça m'est venu en fait par famille, parce que moi j'ai mon père qui chasse, j'ai un de mes frères qui chasse, mon grand-père, mon oncle, mais je n'avais pas de femme autour de moi qui chassait. Et j'accompagnais moi mon père de temps en temps, à la chasse, j'aimais beaucoup me retrouver dehors. J'ai toujours été très attirée moi par la nature et je me suis dit bah en fait pourquoi pas moi. Je pourrais aussi passer mon permis de chasser. Et je ne pensais pas pouvoir être autant passionnée aujourd'hui que je ne le suis quoi.
Vous avez toujours cuisiné ce que vous chassez ?
J'ai toujours cuisiné ce que j'ai chassé dès le début parce que pour moi ça me semble important en fait d'honorer aussi le gibier qu'on a chassé par ce moyen-là. Je trouve ça vraiment une fierté aussi de se nourrir de l'animal qu'on a chassé soi-même et aussi d'assumer en fait ce qu'on a dans notre assiette au final. Quand vous allez acheter une bavette, un beefsteak en grande surface, vous n'avez pas tout l'avant. Vous ne savez pas d'où vient l'animal, vous n'avez pas vu comment il a vécu, vous n'avez pas vu non plus la manière dont il a été tué, etc. Que là, nous, on sait tout. Je trouve ça vraiment particulier d'être critiqué au niveau de la chasse par des personnes qui en fait se nourrissent toujours de viande. Mais sans en assumer la provenance, quoi. Parce que nous, on l'assume.
Les anti-chasses, vous les croisez, vous, sur vos réseaux sociaux ?
Alors, sur les réseaux sociaux, je croise beaucoup d'anti-chasses, ouais. Je ne suis plus trop embêtée. Mais il y avait eu une période, je me rappelle, c'était il y a 2-3 ans, où là, c'était un déferlement de haine, mais sans nom, quoi. Enfin, et ça, je comprends pas. Je peux pas comprendre. On peut ne pas être d'accord. Mais de là à vraiment être haineux, à menacer de mort ou à souhaiter des choses assez horribles, je peux pas comprendre. Donc là, la viande elle commence à être pas mal. On va pouvoir mettre les épices. Tac. Alors.
Tac. À travers vos réseaux sociaux, il y a aussi une volonté de promouvoir l'image de la chasse, de donner une image différente de la chasse.
Au départ, moi, c'était surtout de pouvoir communiquer sur ma passion avec des chasseurs. Mais après, ça a pris une autre tournure où je me suis dit, mais en fait, c'est bien aussi de montrer et d'expliquer aussi la chasse, en fait. Pour moi, ce qui est vraiment important dans ma façon de faire, c'est vraiment aussi d'apporter le côté cuisine de la chasse, en fait. C'est très important et c'est ce qui peut expliquer aussi la chasse aujourd'hui, quoi. Ça commence à sentir bon, quand même, hein.
La jeune génération peut-elle redorer l'image de la chasse? Un reportage de Thibaut Cavaillès avec Sébastien Sabiron, prise de son Sandrine Malon, Jérémy Tuile et Patrick Muller. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Guillaume Ledu. Cette émission est disponible dès maintenant à la réécoute sur franceinter.fr.